On va continuer dans notre série qui se trouve dans Corinthiens. On a terminé le chapitre 3 de 1 Corinthiens et on va maintenant avancer dans le chapitre 4. C'était un beau témoignage tout à l'heure, on a vu que ce qui a vraiment changé la vie de Fatou, c'est ce qu'elle a vu dans la parole de Dieu. Et les prédicateurs vont changer. Un coup c'est Fabrice, un coup c'est moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui ne va jamais bouger de là. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là, pour écouter la parole de Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et le texte que nous prenons, 1 Corinthiens, c'est un texte qui a été entièrement inspiré par Dieu. Accepté de tout chrétien, des chrétiens bibliques en tout cas, comme étant infaillible. Jésus l'ayant lui-même révélé à ses apôtres. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les apôtres et les prophètes avaient besoin de ces révélations directes de Jésus pour comprendre les mystères de Dieu. Nous, on est avec notre Bible tout entière, et parfois on pense que les Corinthiens, ils avaient la Bible tout entière. Vous n'avez pas la Bible tout entière. Nous, on est riches. Et effectivement, quand on plonge les regards dedans, on a plein de choses que les Corinthiens n'avaient pas encore. Donc, on a même plus de responsabilités. Celui à qui on donne plus, il a plus de responsabilités. Et nous voyons dans ces églises primitives que tout n'était pas complet. Et donc, ils avaient besoin de connaissances, mais c'était des connaissances partielles. Ils avaient besoin de prophéties, mais c'était des prophéties partielles. Nous, nous avons tout ce qui convient à la bonne conduite dans une église, et il n'y aura pas d'autre révélation jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son église. Voilà pourquoi lorsque nous consultons la parole de Dieu, nous savons qu'on a tout ce dont on a besoin. Et c'est là-dedans qu'on va le trouver. Et c'était pour ça aussi qu'à l'époque des Corinthiens, le ministère des apôtres et des prophètes était majeur. Et était pour cette époque-là. Il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi ? Les apôtres étaient des envoyés. Et ils étaient envoyés où ? Dans toutes les églises. Imaginez aujourd'hui que les apôtres, ça veut dire qu'il devrait faire les trajets où ? Dans toutes les églises du monde entier. Non. Ils ont fait une fois pour toutes pour poser le fondement. Et quand le fondement est posé, eh bien, viennent aussi les prophètes. Les prophètes, ils donnent les révélations de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole n'était pas complète, mais il leur fallait comprendre les mystères de Dieu, les mystères de l'Église, les révélations qu'avaient reçues les apôtres, les révélations qu'avaient reçues les prophètes. Rien ne se contredisait. Ce que disaient les prophètes, c'était toujours soumis à ce que disaient aussi les apôtres. Les esprits, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il n'y a pas un prophète qui dit ce qu'il voulait. Et vous le voyez même dans l'Ancien Testament, un prophète, souvent il annonçait quelque chose qui était déjà aussi annoncé. Mais c'était toujours la même base. C'est pour ça que quand vous lisez toute la Bible, eh bien, il n'y a pas de contradiction dans l'annonce. Même auparavant, il parlait déjà du sacrifice de Jésus-Christ. Moi, je dis toujours, enfin, je dis parfois comme exemple, là on a pris la scène en mémoire de ce que Christ a fait. Eux, ils offraient un sacrifice en mémoire de ce que Christ va faire. Et vous voyez, le centre, c'est toujours Jésus-Christ. Je vous dis cela parce que c'est important de ramener toujours le contexte à l'intérieur d'un enseignement. Le contexte des Corinthiens. C'est une église primitive et donc différente de la nôtre. Cependant, malgré une différence d'époque, une différence de pratique culturelle, de contexte, eh bien l'enseignement et la théologie traversent les années. Et le problème qui est censé être réglé par la parole est toujours le même depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui. Le problème est dans l'homme. Le problème, c'est que l'homme est pécheur. C'était vrai depuis la Genèse, et ça sera encore vrai dans une bonne partie de l'Apocalypse. Le problème qui amène à la mort tout homme, c'est le péché. Là où l'homme est présent, qu'est-ce qui est aussi présent ? Le péché. Alors ne vous étonnez pas que dans l'église de Corinthe, il y ait quoi ? Du péché. Il y a des hommes. Là où il y a des hommes, il y a du péché. Il n'existe pas d'église parfaite. à toute époque, dans toutes les cultures, dans tout contexte, de l'Église primitive à l'Église d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le temps, la modernisation, le changement de culture, de tradition, de liturgie, de contexte qui nous fait sortir du péché. Il faut régler le problème à la source. Et l'homme n'a pas la solution. Si c'était le cas, le problème aurait été réglé depuis très longtemps. La guerre, les haines, les crimes, les déchirures, et on le voit dans l'église de Corinthe, les divisions étaient déjà là. Et ça existe toujours aujourd'hui. Et la solution, Paul va l'amener. Et c'est toujours la même. La solution, c'est Dieu qui l'a. Le seul qui puisse régler les problèmes de l'homme, c'est le seul qui soit sage. Et le seul qui soit sage, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Paul va prêcher la solution de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 à 24, quelle est la solution? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alors vous étonnez pas que l'enseignement sera toujours de quoi? Christ crucifié. C'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il n'y aura pas autre chose. Ce que nous devons proclamer a l'air fou. C'est une folie de prêcher Christ dans le monde. Et on était là en train d'amener un baptême dehors, les gens ont dû se dire quoi en nous regardant? Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Et c'est une folie. On est en train de dire quoi? Je suis mort et ressuscité avec Christ. Christ crucifié. Un exemple de vie. Et tout le monde doit passer par cette repentance s'il veut être sauvé. Tout homme pécheur doit se repentir pour que Christ crucifié puisse agir dans sa vie. Et vous savez, auparavant, la repentance était déjà là. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas venu parce que Christ est mort à la croix. C'était déjà quelque chose qui était pratiqué en espérance de ce sacrifice. Que l'on s'appelle Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Rahab, Job, David, Salomon, Marie, Paul, Pierre, Apollos, chacun a dû passer par la repentance. Et je dirais même que la repentance faisait partie courante de leur vie. Et c'est d'abord une première question à nous poser, est-ce que dans notre vie, nous laissons la place à la repentance? Ou nous avançons en disant, tout va toujours bien et j'ai aucun problème. Laissons-nous Dieu changer nos vies? C'est une première question. Et vous savez, les Juifs dans l'Ancien Testament ne cessaient d'amener des sacrifices de repentance au temple. Même le grand sacrificateur. C'était un processus long, compliqué, coûteux, et il le faisait. Mais c'était un sacrifice éphémère. Éphémère pourquoi? Parce que ce n'est pas un agneau ou un bouc qui va vous délivrer éternellement de vos péchés. Il faut un sacrifice parfait. Pour que notre pardon soit éternel, il faut que le sacrifice soit parfait. Et nous avons eu le sacrifice parfait en Christ. Christ crucifié, une vie parfaite, un ministère parfait, le sang sans tache, sans péché. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une capacité universelle. Et non l'agneau qui ôte mon péché à moi seul, ou qui ôte le péché de ma famille, mais le don de Dieu capable d'ôter les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire que l'agneau, il est déjà là. Il a déjà été préparé. Ce n'est pas votre agneau. C'est l'agneau de Dieu, préparé par Dieu. Et comme chacun a amené son agneau pour l'offrir en sacrifice au temple, nous, Dieu nous dit, voici l'agneau. Et celui qu'on doit amener devant Dieu, c'est votre agneau, celui que Dieu vous donne, Jésus-Christ. Le seul que vous pouvez présenter une fois pour être pardonné et ne plus être condamné à cause de vos péchés. Avez-vous déjà présenté votre sacrifice à Dieu? Avez-vous déjà présenté Christ crucifié comme étant le sacrifice qui vous éloigne de la condamnation? On a vu, Fatou, elle avait essayé de ramener ses sacrifices au début, les œuvres. Les œuvres de notre vie. Mais vous savez, il est impossible que ce soit agréable à Dieu. Dieu veut un sacrifice vivant. Mais nous, nous sommes quoi ? Morts à la base. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Et celui qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Celui qui amène la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul moyen, c'est de demander pardon à Dieu en disant « Je crois, moi aussi, que Jésus-Christ est mon agneau, le sacrifice que tu as agréé. Il est mort à ma place, lui, il ôte mes péchés. » Et avant de continuer dans la prédication, je vais prier. Déjà pour remercier le Seigneur pour cela. Et si quelqu'un n'a pas encore Christ comme étant son sacrifice, c'est l'occasion aussi pour lui de le présenter tout de suite. Prions. Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es sage. Tu connais le cœur de l'homme, tu connais le besoin de l'homme. Tu sais que l'homme a besoin non pas de ses œuvres, non pas de ce qu'il est capable de produire, mais de l'agneau que tu as donné, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui ôte les péchés du monde. Et Seigneur, je te prie que ici, chacun puisse déjà l'avoir fait. Et si nous l'avons fait, Seigneur, que tu puisses être glorifié dans notre vie. Que ce soit une réalité, que tu aies changé cette condamnation, changé nos vies en une vie nouvelle. Merci parce que oui, nous sommes morts avec toi, mais aussi nous sommes ressuscités avec toi pour une vie nouvelle. Et aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore fait ce pas, si quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, si quelqu'un n'a pas encore demandé pardon à Dieu en présentant le sacrifice de Dieu, c'est votre occasion. Et cette occasion, saisissez-la. Car c'est la mort éternelle auquel vous échappez pour la vie éternelle. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez simplement le faire d'un geste de la main et on priera pour vous. Mais que la prière soit déjà dans votre cœur. Que vous ayez cette assurance d'une vie éternelle, d'une vie qui appartient à Dieu. Et la suite de ce message, il est pour vous encore. Vous qui croyez, vous qui êtes déjà sauvés, que ces paroles puissent agir dans vos vies, afin que vous soyez ce temple saint que Dieu attend. Que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Christ, notre sacrifice, Christ crucifié, c'est le message de Dieu, comme nous l'avons lu. Message que les apôtres et les prophètes de l'Église primitive ont transmis dans la Bible. Et ce message est destiné à toutes les personnes, qui soient de bon ou de mauvais caractère, qui soient contre ou avec le Seigneur. Qui soient des ennemis ou qui soient des amis de Christ. Le message est pour tout le monde. Et quand Paul va arriver dans cette église de Corinthe, quand il va les enseigner, on va voir 1 Corinthiens chapitre 2:2, il va dire qu'est-ce qui le motive, pourquoi il se trouve là, quelle est la raison de ses enseignements. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi voulez-vous amener les gens à l'église? Pourquoi voulez-vous que les gens changent leur vie? Eh bien, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui le demande et c'est parce qu'ils doivent passer par Jésus-Christ. Que dans toutes nos relations, la pensée soit toujours Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Paul aimait cette église de Corinthe. Et pourtant, dans cette église de Corinthe, tout le monde ne l'aimait pas. Il y avait des « moi je suis d'Apollos et moi je suis de Céphas » qui voulaient dire « moi Paul, c'est pas mon truc ». Et dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il va même subir des on-dit. Car dit-on, c'est des on-dit, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. 2 Corinthiens 10:10. Et les gens disaient quoi ? Il est faible et sa parole est méprisable. Ou encore, il n'avait pas la considération dans son ministère de tous. Si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 2 à 3, chapitre 9, versets 2 à 3, il dit « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Et donc ça veut dire que son ministère n'était même pas reconnu par tout le monde. Mais il dit une chose à ses accusateurs, aux personnes qui rejetaient son ministère et aux personnes qui suivaient « Je le suis au moins pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, pour ceux qui écoutent l'enseignement, pour ceux qui ont cru au message du roi. » Je le suis au moins pour vous. Pourquoi vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur ? Un an et demi à enseigner, lorsqu'il était à Corinthe, il y avait des opposants, mais il y avait surtout des vies transformées, des enfants croissant dans la sainteté. Et même certains opposants sont devenus des personnes qui ont servi le Seigneur. Et donc, on voit que Paul, il aimait tout le monde, sans condition. Pourquoi Paul était comme ça? Eh bien, parce que Paul était semblable à son maître. Il était disciple de Jésus-Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? De Jésus-Christ. Donc, ils vont ressembler à qui? À Jésus-Christ. Et on va voir un passage où on voit comment Jésus-Christ traitait les personnes. On va aller dans Jean chapitre 13, verset 1 et verset 5. Verset 1er nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc il les aimait déjà et il mit le comble. C'est-à-dire qu'il a encore montré plus que ce qu'il avait déjà montré. Et au verset 5, il est dit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont il était saint. Combien est-ce qu'il y avait de disciples à ce moment-là? 12. C'était 12, hein? Il y avait Pierre. Pierre, on connaît, hein? Un petit peu parfois têtu, mais il suit le Seigneur quand il est repris. On a Jean, le disciple que Jésus aimait. Donc on se dit, bon, lui, il l'aime, c'est normal qu'il lui lave les pieds. Mais il y avait un autre disciple qui était là déjà, qui avait déjà décidé dans sa tête de le livrer. Et Jésus le savait déjà. Mais est-ce que Jésus, il a dit, écoute-toi, va-t'en, je vais d'abord laver les pieds des autres, toi, t'as rien à faire ici. Il a fait quoi? Il a même lavé ses pieds à lui, sachant ce qu'il allait faire. Et il l'a même averti, l'un de vous va me livrer. C'est pas faute quand même de l'avoir dit. Il va quand même le faire. Mais ça, c'est l'amour du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous savez que quelqu'un vous fait du mal ou va faire du mal que vous allez dire, eh ben lui, je m'en fiche. Non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais faire quoi? Je vais l'amener où? Au salut. Même si je sais, et le Seigneur le savait, qu'il ne serait pas sauvé. Et ça, c'est quelque chose que Paul a compris. C'est que ce n'est pas lui déjà qui décide qui est sauvé ou non, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur, il a aimé jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour. Paul, lui-même, a connu l'amour du Seigneur Jésus. Il était sûrement le dernier à le mériter. Et c'est lui qui le dit. Je suis indigne d'être appelé apôtre. Et il a connu l'amour que le Seigneur a eu pour lui. Le Seigneur ne l'a pas aimé lorsqu'il était le gentil Paul qui aimait les chrétiens et qui était en train d'enseigner et de se sacrifier pour sa vie pour les chrétiens. Quand Jésus l'a arrêté, quand Jésus est venu lui parler, il était décidé à faire quoi? À détruire les chrétiens, dans la haine des autres. Mais Jésus l'a arrêté dans son amour. Et Paul en est conscient. Il sait quelle dette il a en Jésus-Christ. Il sait ce qu'il aurait dû mériter. Et lorsqu'il se trouve dans l'église de Corinthe, son regard est le regard qu'avait Jésus-Christ envers lui. Un regard plein de compassion. Un regard qui souhaite le salut. Il enseigne dans cette lettre Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il a arrêté. Et c'est ce qui peut arrêter tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Il est un imitateur de Christ, un authentique envoyé, un apôtre de Christ. Quelle est notre réaction lorsque les gens s'opposent à nous? Est-ce que nous les souhaitons être dans le malheur ou imitons-nous Christ? Imitons-nous Paul et cherchons-les à amener et nous cherchons à les amener au salut. Il y a un proverbe, c'est un des proverbes qu'on verra avec les adolescents, proverbe 13-17, on peut lire. Avec les adolescents, on sera dans le proverbe 13 et 14. Et le proverbe 13, 17 nous dit « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » Tant qu'un messager fidèle, il apportera toujours la même chose. Et la guérison, on l'a vu, elle nous l'a dit Fatou, elle se trouve où? En Christ crucifié. Et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi le message, c'est Christ crucifié, le désir qu'il y ait de la guérison et non pas qu'il y ait des malheurs. C'est de la méchanceté. Paul était accusé, rejeté par certains, mais sa fidélité a annoncé la guérison en Jésus-Christ, un amour venant de Christ. C'est ce qui a permis à beaucoup de ces personnes en Corinthe de connaître le salut. Et aujourd'hui encore, jusqu'à ce jour, dans nos églises, c'est ce messager fidèle qui a permis à beaucoup d'entre nous de connaître Jésus-Christ crucifié. Moi, j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour moi sur un message de Paul dans la Bible. Aux Romains, c'est Paul. Et sa fidélité, Dieu l'a approuvée jusqu'à même aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes faire confiance à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Mais surtout, nous devons avoir le regard que portait Paul sur les Corinthiens. Autant sur ceux qu'il aimait que ceux qui ne l'aimaient pas. Mais il va aussi donc les enseigner, ces Corinthiens, à avoir un autre regard sur lui. Lui, son regard sur les Corinthiens a changé, mais il a voulu enseigner aussi les Corinthiens à avoir un autre regard sur lui. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 4, du verset 1er, de 1 Corinthiens 4, du verset 1er jusqu'au verset 7. Quel est ce regard ? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et pourquoi ne me jugez-vous rien avant le temps ? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Les prédicateurs ne sont pas des maîtres à penser, des philosophes, des sages, comme on le voit dans le monde, qu'il faut suivre et opposer leur doctrine les unes aux autres. Hein, moi, je suis dans l'économie keynésienne, moi je suis libéral. C'est un peu comme ça dans la manière de vivre dans le monde. Moi, je suis plus cartésien et moi, je suis plus d'Aristote, peu importe. Mais quel est l'intérêt de faire cela dans le Seigneur ? Dans le Seigneur qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ôtons-nous du regard qui est le regard des hommes. Et nous l'avons déjà vu la dernière fois, ils sont serviteurs de Christ et qu'est-ce qu'ils étaient ? Des ouvriers appartenant à Christ, au service de tous. Ils sont là pour l'avantage de tous, pour nous faire connaître Dieu, mettre en avant Christ dans nos vies, que nos vies soient cachées en Jésus-Christ. Paul plante, Apollos arrose. Une image simple pour montrer que chacun, chaque ministère est complémentaire et surtout conforme à l'appel que chacun a reçu du Maître. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ, qu'on regarde la fonction et non pas les noms. Il n'y a pas de serviteur qui est plus serviteur que l'autre. On est juste des serviteurs. Et quand il compare Paul et Apollos, certains pouvaient se dire, bon, Paul et Apollos, ce sont des enseignants tous les deux. Paul a posé le fondement, oh, c'est quand même Paul le fondement. Hein. Et Apollos bâtit dessus. Ou alors, chacun peut dire, ouais, mais quand même, la conversion de Paul, c'était plus fort. C'était fort quand même. Il s'est converti avec qui, Paul ? Avec Jésus-Christ, directement avec Jésus-Christ. Il est plus proche de Jésus-Christ. C'est la logique humaine. Et Apollos, il s'est converti avec qui ? Oh, peut-être avec Jean. En plus, Jean, ça c'était quand même avant Jésus-Christ. C'est Jean qui baptême de Jean, ou alors même un disciple de Jean, mais pas Jésus-Christ directement. C'était peut-être un petit enseignant. Non, non. Il va dire quoi encore ? On va parler du ministère aussi. L'appel au ministère à Corinthe de Paul. Est-ce que vous vous rappelez comment Paul a été appelé à parler au milieu des Corinthiens ? Comment est-ce qu'il a reçu cet appel ? Qui lui a parlé ? Qui l'a encouragé ? Jésus directement. Jésus va lui dire quoi ? Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Actes 18, 9, 10. Donc, qui lui a parlé directement ? Jésus. Et les gens pourraient porter, « Ah, mais Paul, quand même, c'est Jésus qui lui a parlé directement. Il est vraiment plus proche, c'est surtout lui qu'il faut écouter. Paul, Apollos, on n'écoute pas. » Tandis que Apollos, comment est-ce qu'il est venu à Corinthe ? Je vous le lis, hein. Comme il voulait passer en Achaïe, l'Achaïe, c'est la Corinthe, hein. C'est la région de la Corinthe. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir quand il fut arrivé. Il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Qui l'a envoyé là-bas ? Qui l'a recommandé ? Les frères, c'est l'Église. Et quand Paul va parler, il ne va pas dire « Moi, je suis plus enseignant que lui ». Il va dire quoi ? Qu'on nous regarde comme des serviteurs. Il n'a pas dit qu'on me regarde moi comme un serviteur et lui comme quelqu'un un petit peu qui vient derrière. Et ça, c'est l'attitude que a Paul. Et le mot serviteur, c'est un mot qui n'est pas celui qu'on utilise habituellement, que l'on connaît. On connaît deux mots pour serviteur. On connaît doulos, qui est en grec, qui veut dire un esclave. Et il y a un autre mot, c'est diakonos, qui a donné le mot diacre, un serviteur, qui offre un service. Mais ici, le mot, bon, je vous le dis, ça n'a pas non plus aidé, c'est upeteres, mais ça veut dire littéralement, c'est le nom qui était donné, quand vous voyez dans l'évangile, quand il dit que les juifs envoyaient les huissiers. Et c'est le mot huissier. Donc, ils étaient les huissiers de Jésus-Christ. Et huissier, ce n'est pas le mot qu'on préfère. Quand un huissier vient, on se dit, ouais, il va nous prendre quoi là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'on doit encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et un huissier, ça ne fait jamais plaisir à voir. Mais un huissier, il ne fait pas non plus ce qui lui fait plaisir. Je ne pense pas que l'huissier soit là ravi d'aller chez les gens et de dépouiller la maison des gens. Et un huissier, qu'est-ce qu'il fait juste ? Ce que celui qui l'a embauché lui demande de faire. Et c'est ça son travail. Et parfois, eh ben, ça cause de la peine. Mais ça lui cause aussi de la peine. Mais s'il ne le fait pas, ça causera de la peine à qui ? À celui qui l'a embauché. À celui qui l'a demandé de servir. Nous, nous devons simplement amener le service que Dieu demande. Regardez, dira Paul, Apollos et moi, on travaille ensemble comme huissiers. Qu'on nous regarde donc comme des huissiers de Christ, des officiers de Christ, des collègues et non des rivaux. On préférerait souvent qu'un huissier ne fasse pas son travail. Vous voyez souvent, hein, quand les huissiers débarquent devant chez les gens, qu'est-ce que les gens disent ? Vas-y, rentre, viens, prends tout. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais pourquoi tu prends tout ? Mais non, mais arrête. Et il dit, mais je fais mon travail, monsieur. Je fais mon travail. Et mon travail, c'est que vous avez une dette. Et moi, ce que je dois faire, c'est récupérer ses affaires. Et il doit faire son travail. S'il ne fait pas son travail, c'est un mauvais serviteur. Mais nous, on voudrait parfois que les serviteurs de Christ ne rentrent pas non plus dans nos vies. Et qu'ils ne se fassent pas le ménage dans le temple de Dieu qui doit être saint. Et on voudrait, non, reste à l'extérieur. Le reste, cette parole, je ne veux pas qu'elle rentre dans ma vie. Je ne veux pas entendre ce message. Je ne veux pas savoir ce que Dieu veut dans ma vie. Et c'est ça être un huissier. C'est ramener ce que le maître a voulu. Mais parfois, nous devons porter un autre regard sur les huissiers. Ils viennent, non pas voler ce qu'il y a dans la maison. Ils viennent rendre justice pour celui qui les a engagés. C'est son rôle. Il n'est pas méchant. C'est son rôle. Mais on dit souvent que les huissiers sont méchants. Si on demande aux gens quels sont les métiers les plus mal aimés, je crois que huissier doit être le numéro 1, voire le numéro 2. Mais il dit un autre terme au chapitre 2, je vais rester sur le verset 1er. Chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère... Non, pardon, chapitre 4, verset 1er, c'est moi le truc. Pour moi, frère... Chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. huissier, dispensateur. Le mot dispensateur en grec, ça va vous aider, c'est oikonomia, qui a donné un autre mot, économe, un économe. Et c'est composé de deux mots. Oiko, c'est la maison. Oikos, pardon, c'est la maison, c'est la famille, c'est tout le ménage. Et nomos, c'est les lois. Quand vous parlez de la loi de Dieu, c'est nomos. Et donc, le rôle des dispensateurs, c'est dans la maison de faire appliquer les lois ou de gérer les lois. Que les lois du maître soient appliquées. Et c'est comme ça que Paul expose son ministère et celui d'Apollos. Nous sommes des économes à qui le maître a confié la maison pour la gestion de ses affaires. Le soin, nous avons le soin de distribuer la bonne part à tous dans la maison. Et ce n'est pas sa maison, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas comme il veut, c'est comme Dieu le veut. C'est ça l'économe. Ils sont économes ou dispensateurs des mystères de Dieu. On leur a confié donc des choses, des mystères, aux apôtres, aux prophètes, aux enseignants. Et aux apôtres, on leur a confié la base, qui est un mystère. L'Église est un mystère. Et si on ne l'avait pas dit que l'Église allait exister, c'est pas dans l'Ancien Testament que vous alliez deviner l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est les apôtres qui l'ont amenée. Mais les prophètes révèlent aussi quoi ? Les mystères qu'ils ont reçus de Dieu aussi. Et ils l'ont annoncé à toutes les personnes dans l'Église, et les enseignants, comme Apollos, instruisent selon ce qu'ils ont reçu de Dieu aussi, par les apôtres, par les prophètes. Et Dieu appelle ses économes à nourrir son peuple par l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises de Dieu. Si il n'y a pas d'enseignement de la parole, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de maison. Parce que les économes ont le rôle de conduire le temple de Dieu, la maison de Dieu, à la sainteté. Et donc, amener la part qui va nourrir chaque temple, chaque personne. On l'a vu la dernière fois, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il y a un culte à rendre. Où ? Dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est qui ? C'est nous. Donc il faut nourrir ce temple, que chacun donc s'applique à mettre en œuvre la parole dans le temple de Dieu, dans notre vie, afin que la sainteté règne dans le temple de Dieu, là où Dieu habite. C'est notre vocation, notre part à tous. Donc, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, et le verset 2 nous dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Juste de la fidélité à faire leur travail. Ce n'est pas un enseignement nouveau que dit Paul. Cet enseignement, il le base sur celui qui a révélé comment est-ce qu'il fallait être un bon économe. Et vous connaissez cet enseignement aussi. On le retrouve dans les évangiles, en Luc, chapitre 12, verset 42. 48, 42 pardon, à 43. Luc chapitre 12, verset 42 à 43. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'était déjà ça qui était prévu. Il avait déjà demandé ça à Jésus, et Paul ne fait que dire, avec un petit résumé, du reste, ce qu'on demande à des économes, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce que Dieu demande, c'est l'ordre qu'il a donné. Alors c'est important de porter les bons regards sur le ministère de l'enseignement de la parole, sur le travail des économes, que chacun regarde ce service comme étant celui qui a été ordonné par Christ dans l'Église, pour que chacun puisse recevoir sa part sur les mystères de Dieu. La nourriture que Dieu a confié au temps convenable pour nourrir l'Église. Mais parfois, on peut avoir un mauvais regard. Et le problème des Corinthiens, c'est qu'ils avaient un mauvais regard. Et leur mauvais regard s'appelle le jugement. Bon, on dit, on peut que juger quand même, mais le jugement qu'ils avaient, ce n'était pas le jugement comme l'entend le Seigneur. C'était un jugement qu'on va lire, on revient à 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et vous le voyez depuis le début, quand ils disent « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas », c'est qu'ils ont fait un jugement. Un jugement, ils ont fait des choix. Et les Corinthiens, au lieu d'avoir le regard qui convient, avaient un regard, donc qui était un regard de juger ce qui se passe. Un petit peu comme on le trouve dans ces jeux où il y a des jurys, où on passe à un casting. Comme si l'église était un lieu de casting. Et les Corinthiens étaient dans la salle, un peu comme ces spectateurs avec leur boîtier de vote. Et il y avait des commentateurs et un jury qui attendait le prochain prédicateur pour donner la critique, oubliant qu'ils étaient là pour se nourrir des mystères de Dieu et de grandir dans la sainteté. Au lieu de ça, chacun se plaçait en juge et ils avaient créé l'émission « Mon église a un incroyable orateur ». C'était ça, « Mon église a un incroyable orateur ». Et qui est le meilleur orateur ? Qui a le plus beau langage ? Qui est le plus influent ? Qui est le plus célèbre ? Si vous avez aimé Paul, tapez 1. Si vous avez aimé Apollos, tapez 2. Si vous avez aimé Céphas, tapez 3. C'était comme ça. Chacun faisait ce type de vote. Chacun avait quelque chose à dire. Il y avait même un terme au verset 3. Ici, dans cette version, ils disent un tribunal humain. C'est-à-dire qu'ils avaient même fait un groupe pour dire quelle évaluation on lui donne. C'est le TripAdvisor des églises. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une étoile, deux étoiles, trois étoiles ? Et c'était la manière de fonctionner des Corinthiens. Pourquoi ils avaient des soucis ? C'est parce qu'ils ne venaient pas là pour être nourris, ils venaient là pour jouer les juges et les critiques. Mais dans une église, on n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma. On n'est pas dans un amphithéâtre où il y a un grand spectacle et puis tout le monde est là en train de juger à la fin. Ah, ils ont bien joué quand même. On est là pour quoi ? Recevoir la parole de Dieu. Et donc grandir en sainteté. Quel que soit l'orateur, on a dit qu'est-ce qui sera toujours là ? La bonne nourriture. Voilà pourquoi nous devons être à l'écoute de la parole. Et c'était le rôle de Paul et d'Apollos. Et ils auraient pu réagir comme parfois on réagit. Quoi, tu me critiques ? Eh bien, je ne ferai plus rien, je m'en vais. Paul aurait pu dire ça, ben, je ne vous écris plus, je ne vous parle plus, je vous boude. Ben, plus tu critiques Paul, lui va revenir. Parce qu'il y a un problème, ça veut dire. Et quand quelqu'un que vous aimez a un problème, vous ne vous dites pas, je m'en fiche. Vous faites quoi ? Vous allez le voir et vous allez régler le problème. Et c'est ce que Paul a fait. Il est parti, il a envoyé cette lettre plutôt, et il veut régler le problème comme un véritable serviteur de Christ. Et les serviteurs de Christ savent une chose, c'est que là, il y a le service et il y a aussi de l'opposition. Mais ce n'est pas parce qu'il y a opposition que ça veut dire qu'on arrête le service. On doit servir, c'est le rôle. Et les huissiers ne font pas ce qu'ils veulent, ils doivent servir. Pour Paul, ce n'était pas important ces jugements. Il dit que ça lui importait peu. Dans ce passage, Paul nous enseigne que nous ne devons pas avoir un regard humain, que ça ne doit pas nous affecter. Nous devons toujours avoir un service pour le temple de Dieu, amené à la sainteté. De même, un prédicateur n'est pas appelé à changer son message pour avoir une meilleure évaluation auprès des auditeurs. Ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est d'être un économe des mystères de Dieu. Donc si c'est le message de Dieu, en bon huissier, qu'est-ce qu'il doit faire ? Faire ce que Dieu demande. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Qui évalue ses ouvriers ? Qui embauche ou débauche ses ouvriers ? c'est le maître et personne d'autre. Et croyez que le maître, il est vivant et qu'il ne dort pas et qu'il n'observe rien. Non, ne croyez pas ça. Il regarde et quand il doit mettre en lumière ce qui est caché, vous savez ce qui va se passer ? Ça va toujours se voir. Voilà pourquoi on lui fait confiance aussi. Mais si vous croyez que Dieu est mort ou que Jésus-Christ ne fait rien, vous allez tenter de faire quoi ? Son travail. Et vous allez être le maître. Et qui ne sera plus le maître ? Jésus. Voilà pourquoi nous devons le laisser maître. C'est lui qui est le juste juge. Et ce qui est a dit au conducteur, c'est qu'un jour, ils devront rendre compte devant Dieu des âmes qui étaient sous leur responsabilité, dit Hébreux. Ne pensez pas que les personnes qui annoncent des choses qui sont totalement contraires à la parole, ils ne vont jamais rien avoir dans leur vie, aucun problème. Peut-être qu'ici, ils vont s'enrichir. Mais attendez quand le Seigneur va revenir. Et moi, je ne vous conseille pas de jouer avec le Seigneur. Parce que quand c'est lui qui juge, il dit, hein, celui qui détruira son temple, vous connaissez ce passage, il le détruira. Et c'est dur. Et je ne veux ça pour personne et ne voulez ça pour personne. Et si on peut dire à quelqu'un, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Écoute la parole, suis la parole. Paul ne se juge même pas lui-même. Il dit, je me sens coupable de rien. C'est-à-dire qu'il a regardé sa vie et dit, je suis coupable de rien, donc pourquoi je devrais changer ma prédication ? Ce qui est la parole est écrit, et ce qui est écrit, c'est ce que je vais enseigner. Comme depuis le début, il prêche fidèlement. Et ça m'est arrivé parfois d'entendre, je sais, quand j'étais à l'Institut, en se disant, imagine, Paul débarque dans les églises. Ah, il est insupportable. Et les gens ne supporteraient pas, ils seraient toujours là en train de se mêler là des choses et de dire aux gens, change ta vie, fais pas comme si, etc., suis le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est partout. Et quand vous le voyez, il a dit, il a combien de vies pour avoir été dans autant d'églises et il n'avait ni train, ni avion, ni quoi que ce soit, mais on dirait qu'il est partout. Et Dieu a témoigné de son message, que c'était un messager fidèle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a compté sur Dieu et le message qu'il a porté, c'était le message de Dieu. Paul expose son ministère, mais il ne va pas dire aussi, non, je suis tout seul, c'est mon message, c'est moi. Non, il va parler d'Apollos. Il n'a pas dit, regardez-moi comme un serviteur de Christ. Il a dit, regardez-nous. Nous, je ne suis pas seul. Et peut-être qu'on voit beaucoup Paul dans les livres ici, mais vous savez qu'il y avait d'autres apôtres. Il y avait Pierre, il y avait Thomas, il y avait Luc. Et là, il y avait des enseignants, il y avait Apollos. Et dans cette église, il y avait aussi d'autres personnes. On sait que toutes ces personnes ont travaillé pour le Seigneur. Et parfois, il y a des noms qui ne sont pas connus. Mais est-ce que le but, c'est qu'on connaisse notre nom ou qu'on connaisse le nom de Christ ? Christ crucifié. Et Paul, je pense que son nom était là. Parce que quand vous regardez Paul, vous avez l'impression de voir qui aussi devant lui ? Christ en tout temps. Et il a témoigné de Christ. Voilà pourquoi il dit au verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Apparemment, il y en a, on l'a vu depuis le début, qui concevaient de l'orgueil en faveur de Paul contre Apollos ou en faveur d'Apollos contre Paul. Mais il a fait une application à sa personne et à la personne d'Apollos de montrer, vous nous placez comme étant des adversaires, mais nous sommes quoi ? Des collègues. Nous sommes quoi ? Des serviteurs de Christ. Nous travaillons ensemble. Moi, je plante et lui, il arrose. Et s'il n'y a personne qui plante, il n'y a rien à arroser. Mais si je plante et qu'il n'y a personne qui arrose, il n'y a rien qui va grandir. Donc il faut absolument que l'on travaille ensemble. Et ce qu'il dit aux Corinthiens, c'est qu'il faut absolument que vous travaillez ensemble. Il faut absolument que vous serviez le Seigneur ensemble. Une application à sa vie et celle de Paul pour un exemple à mettre en pratique dans l'église de Corinthe. Il veut montrer par sa manière d'agir qu'il est conforme à ce qu'il prêche. Montrer qu'Apollos et Paul, c'est le même combat. Conduire à la sainteté. Le même maître, Christ. Le même message, Christ crucifié. Et si vous apprenez de leur vie, vous n'irez pas au-delà de ce qui est écrit. Vous ne cherchez pas d'excuses pour faire autre chose que ce qui est écrit dans la parole. Vous ferez uniquement ce qui est écrit dans la parole. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Ne mettons pas des rivalités envers les enseignants. Contentons-nous de nous nourrir, d'écouter, de mettre en pratique. Tout dispensateur gère bien les biens qui ne sont pas à lui. Et c'est vrai pour les économes qui sont là pour distribuer la parole, mais c'est vrai pour nous tous qui sommes quand même administrateurs des biens que Dieu nous donne aussi. Et Dieu vous a donné des biens, le salut. Dieu vous a donné des dons. Dieu vous a donné des talents. Mais ce sont des choses que Dieu donne. Donc, ils doivent être au service de qui ? De Dieu, du seul maître. Et utile à qui ? À tous. Que nous donnions ce que Dieu nous a confié. Que nous ne cherchions pas à faire resplendir nos dons, mais que nous les donnions ce que Dieu nous a donné. Et que dit le verset 7 ? Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Car qui est-ce qui te distingue ? Au début, je ne comprenais pas cette phrase. La première fois, je ne lisais pas le qui. Je lisais qu'est-ce qui te distingue au début. Et je me trompais toujours, mais qu'est-ce qui nous distingue ? Qu'est-ce qui nous distingue ? Non, il a dit qui est-ce qui nous distingue ? Et ça change. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous distingue des autres. Qui est-ce qui vous distingue des autres de ce monde ? C'est Jésus-Christ. Qui est-ce qui vous distingue dans l'Église, sur la place que l'on a, qui distribue les dons ? C'est l'Esprit de Christ. Donc celui qui fait une distinction, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Et ce n'est pas ce que nous savons faire, mais c'est ce que Dieu nous a donné de faire aussi. Ne cherchons pas non plus à nous distinguer des autres. C'est Christ qui distingue. Lorsque l'on cherche à se distinguer, c'est souvent parce que l'on cherche aussi les distinctions. Vous savez ce que c'est qu'une distinction ? Moi, je veux être un peu plus honoré que les autres. Je veux une distinction. Un petit prix qui marque ma différence avec les autres. Mais qui doit avoir la distinction unique de notre vie ? C'est Jésus-Christ. Lui doit être distinct en se disant « On voit bien Christ distinctement dans cette église. » Pas moi. Pas nous. Mais c'est lui qui donne une distinction. Et quelle distinction il nous donne ? Il nous donne déjà une place dans sa maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Si on vous dit « Demain, vous vivez dans le plus beau des palais, avec tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes nourri par la parole, logé. C'est quoi le troisième mot ? Blanchi. C'est ça, hein ? C'est quand même une distinction différente. Vous avez un toit sûr que demain, si vous traversez la mort, rien ne va jamais arriver. C'est ça une distinction. Vous êtes distingué des autres, alors que dans le monde, vous avez des personnes qui n'ont pas Christ et vous ne savez qu'il ne passera pas la mort. Ils vont avoir la mort éternelle. Vous êtes distingué. Et si vous l'avez reçu, parce qu'il y a un sujet de se glorifier, il n'y a rien. C'est même pas nos forces, on n'a rien fait du tout. Merci Seigneur de m'avoir donné cet abri sûr. Merci Seigneur. Parce que tu m'as donné ce salut. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Mais même vos dons. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Comme si ça venait de qui ? De toi. Mais ça vient de Dieu. L'Évangile nous distingue. Notre vie nouvelle nous distingue. Et c'est une grâce que l'on reçoit de lui. Il nous a fait des dons. Il l'a distribué selon son bon vouloir. Il nous a unis. Travaillons pour le même Seigneur. Le même maître qui nous distingue les uns et les autres dans le corps. Les uns sont des mains, les uns sont des pieds, les autres sont des oreilles, des yeux. Il fait des distinctions aussi sur notre manière de servir. Mais c'est le Seigneur qui le fait. Nous, nous sommes juste dispensateurs des biens qu'il nous confie dans son temple. Alors, pas de glorification, on ne se glorifie pas. On a reçu ça du Seigneur, on le glorifie lui. Que Christ soit notre maître et il soit vu de tous. Et glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier, mon Dieu, parce que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas de te connaître. Nous ne méritons pas d'être en ta présence. Nous ne méritons pas d'être appelés temple de Dieu. Nous ne méritons pas que tu vives en nous. Nous ne méritons pas la vie éternelle. nous sommes des êtres pécheurs. Nous sommes des êtres moqueurs. Nous jugeons. Nous n'aimons pas. Nous sommes pleins de haine. Mais Seigneur, toi, tu es le parfait. Tu nous as aimés. Et tu nous as regardés avec miséricorde en voulant nous sortir, Seigneur, de ces ténèbres. Et merci, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des êtres différents. Non pas que nous soyons meilleurs, mais c'est toi qui améliores notre vie. C'est toi qui renouvelles notre vie. Tu nous as donné une nouvelle vie. Et Seigneur, s'il y a des gens encore aujourd'hui qui n'ont pas cette vie nouvelle, qui n'ont pas cette assurance, que Seigneur, tu les amènes à toi. Que tu les distingues des autres dans le monde. Et Seigneur, pour ceux qui ont déjà confessé ton nom, ceux qui ont déjà offert le sacrifice parfait qui est Jésus-Christ, ceux qui ont pris Christ comme étant leur agneau, qui puissent avoir cette vie nouvelle, visible de tous, toi que l'on voit dans leur vie, Jésus-Christ crucifié dans leur vie. Et Seigneur, je te prie vraiment pour chacun ici, que tous puissent désirer te suivre, venir à toi, être à l'écoute de ta parole, car tu as les paroles de la vie, nous l'avons lu, et nous voulons vivre ta vie. Que toute la gloire te revienne encore dans ce culte, dans le reste de ce culte. Bénis mes frères et sœurs, que toute cette parole, Seigneur, puisse être des paroles que l'on vive encore durant cette semaine, mais que toute la gloire te revienne dans tous les cas. Merci Seigneur pour tout. Amen. Et ça passe à Fabrice.
Merci Ando. On va conclure par un dernier chant. On va chanter juste une strophe. Voilà. C'est le chant qui parle justement, qui redit un petit peu ce qu'a évoqué notre frère. Que l'esprit de vérité agisse en nous maintenant afin que nous puissions te ressembler et savoir prier. Ah d'accord. Bon, il est long le chant ou pas? Ok, donc. Ouais, ceux qui le peuvent se lever. Pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de recevoir, il nous faudra bien l'esprit de vérité, non ?